Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. C'est l'émission de science et de technologie. Nous allons un petit peu feuilleter l'actualité scientifique pendant cette petite heure ensemble. Vous nous écoutez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Nous sommes aujourd'hui le 19 janvier. Alors pour la troisième fois consécutive là, depuis le début de l'année, il n'y a pas de journée internationale dédiée pour cette date du 19 janvier, mais il y a quand même eu des 19 janvier assez importants d'un point de vue scientifique. En 1911, dans la baie de San Francisco, Eugene Ely pose son biplan Curtiss sur une plateforme du croiseur Pennsylvania. C'est donc lors du tout premier appontage sur un navire en 1911. En 1915, le dépôt du brevet de George Claude pour son invention du tube à néon. Tiens, on en parlera tout à l'heure. En 1983, le 19 janvier, c'est le lancement de Lisa par Apple, l'un des premiers ordinateurs personnels à posséder une souris et une interface graphique. C'était en 1983. Il y a donc 35 ans, 36 ans déjà, ça passe vite en l'an 2000. Le 19 janvier, il y a des mesures qui sont mises en place pour lutter contre l'effet de serre. C'est l'écotaxe, déjà en l'an 2000. Et le 19 janvier 2006, le lancement de la sonde New Horizon pour l'étude du système Pluton et de la ceinture de Kuiper, c'est en 2006. Des naissances, celle de James Watt, le 19 janvier 1736 en Écosse. Il est un ingénieur écossais dont les améliorations sur la machine à vapeur furent une des étapes clés dans la révolution industrielle. La machine à vapeur conçue par James Watt a permis de passer d'une machine d'usage limité à une machine efficace aux nombreuses applications. Ce fut la source d'énergie principale de la révolution industrielle qui commençait à naître, dont elle a considérablement accru la capacité de production, parce qu'avant elle, on utilisait l'énergie d'origine humaine ou animale. Et notamment pour certaines activités, c'était vraiment très important. Elle fut également essentielle pour les progrès qui ont suivi dans le domaine des transports, bien sûr le bateau à vapeur et surtout le chemin de fer avec le quasi-monopole des locomotives à vapeur jusqu'à dans la seconde moitié du XXe siècle. Le statut de Watt, de James Watt, comme véritable inventeur de certains des nombreux principes et inventions pour lesquels il a déposé des brevets, quand même sujet à controverse, il a en particulier bénéficier des recherches des chimistes Joseph Black et John Roebuck. Il avait pour habitude soit de déposer des brevets vagues, soit de s'approprier, quand il en avait connaissance, des idées d'autres personnes en déposant des brevets avec l'intention que l'invention lui soit créditée et en s'assurant que personne d'autre ne pût travailler dans un domaine particulier. Alors, il évoque notamment dans une lettre qu'il a écrite en 1784, « J'ai donné pour les moteurs de chariot les descriptions que je pouvais en fonction du temps et de l'espace que je pouvais m'autoriser, mais c'est très imparfait, ça ne peut servir qu'à empêcher d'autres gens de déposer des brevets similaires. » Donc il l'évoquait totalement, il était totalement transparent. Deux exemples de cette pratique sont le dépôt d'un brevet pour l'engrenage Soleil-Planète en 1781 et le dépôt d'un brevet pour une locomotive à vapeur en 1784, alors que c'est son employé William Murdoch qui était à l'origine de ces deux inventions. Mais voilà, c'est lui qui dépose le brevet et donc c'est son nom qu'on retiendra, James Watt, l'inventeur donc notamment des machine à vapeur. Le décès le 19 janvier 1878 d'Henri Victor Regnault, chimiste, physicien français connu pour ses mesures précises des propriétés thermiques des gaz. Il est considéré notamment comme l'inventeur du PVC, le polychlorure de vinyle, qu'il avait découvert en 1835. Dans les deux cas, en fait, dans ce cas-là, le polymère est apparu comme un solide blanc dans des bouteilles de chlorure de vinyle après l'exposition à la lumière solaire. Et jusqu'au début du XXe siècle, les tentatives pour essayer d'industrialiser le PVC vont se heurter aux difficultés de transformation du polymère. Donc lui, il découvre cela, mais on ne pourra développer la solution que beaucoup plus tard, en 1926. Henri-Victor Regnault, qui meurt donc à Paris le 19 janvier 1878. Voilà donc des 18 janvier célèbres. Pas de journée internationale, mais une année internationale. Je le rappelle, depuis le début de cette année 2019, dans cette émission Biotine, et bien toutes les semaines, nous évoquons l'année internationale du tableau périodique des éléments. Et comme on a évoqué tout à l'heure le dépôt du brevet de Georges Claude pour son invention du tube à néon, c'était le 19 janvier 1915, nous allons donc nous arrêter sur le néon. Et donc au début du XXe siècle, ce fameux Georges Claude, qui est le fondateur du groupe Air Liquide, il va produire des quantités industrielles importantes de ce néon et il va pouvoir développer l'utilisation dans des tubes à néon, des tubes à décharge. Devant le manque d'engouement un petit peu pour ce nouvel éclairage, eh bien, il a eu l'idée de plier les tubes pour en faire une enseigne commerciale. Et c'est un concessionnaire de voitures à Los Angeles qui en fut le premier propriétaire. Quand il est traversé par de l'électricité, eh bien, ce gaz, le néon, émet une lumière rouge et puissante. Et ses découvreurs pensaient alors révolutionner l'éclairage. Mais bon, comme il n'y a pas eu de succès, ils ont essayé de l'étordre et donc ils en ont fait une enseigne commerciale. C'était en 1910. Et donc en 1898, le néon est découvert par William Ramsay et Maurice Travers. Et ça vient du grec néon qui signifie nouveau parce qu'on pensait que c'était un nouveau mode d'éclairage qu'ils avaient à l'époque découvert. Son symbole, il n'a pas une seule lettre, c'est deux lettres, grand N, petit E. Et le numéro atomique, c'est le numéro 10 dans le tableau périodique des éléments. Le néon appartient à la famille des gaz rares qui comprend plusieurs gaz qu'on évoquera peut-être dans cette émission lors d'émissions futures. Donc il y a le néon, il y a l'hélium, il y a le xénon, le radon, l'argon, le krypton. Et ces gaz rares, ils sont extraits presque tous de l'air. Le néon, lui, est utilisé principalement pur ou mélangé avec de l'argon, donc dans ces fameux tubes luminescents d'anciennes lumineuses. Et il renferme en général ces tubes maintenant de l'argon, mais pas de néon. Et on va pouvoir ajouter aussi de la vapeur de mercure, et donc ça donnera ces tubes fluorescents. Le néon est également utilisé dans les lampes témoins à décharge. Il est utilisé avec l'hélium dans des lasers à gaz. Et il est également utilisé comme gaz porteur en chromatographie. Le néon, voilà, élément chimique à lui tout seul. Il porte le numéro 10, voilà, toutes les semaines dans cette émission. On va évoquer un élément chimique pour commémorer justement cette année internationale du tableau périodique des éléments. Dans cette émission, on parlera de plusieurs choses d'un point de vue. On va retourner dans l'espace, on va s'intéresser à nos enfants et on va s'intéresser également à différentes... sur le réchauffement climatique, qui rendrait apparemment les requins droitiers. Moi, j'adore cette histoire qu'on évoquera pour cela. Et puis aussi quelques éléments d'un point de vue médical. C'est ce que je vous propose dans cette émission. Une émission qui se veut aussi musicale, parce qu'on en écoute parfois un petit peu des petits titres intéressants. C'est le cas notamment de French 79, qui va nous proposer Diamond Veins sur l'antenne de Graphite.
Feel
French 79 sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique, et vous avez bien raison. Et puis parfois dans cette émission, c'est vrai que je le fais pas assez souvent, et aujourd'hui on va s'arrêter un petit peu plus longuement sur des propositions d'expositions que vous pouvez aller visiter, notamment à Paris à la Cité des Sciences et de l'Industrie, où il y a trois, je suis en train de récupérer un petit peu toutes mes feuilles, trois nouvelles expositions temporaires qui sont proposées. Alors, la première, c'est Microbiote, qui est donc proposée depuis quelques jours jusqu'au mois d'août, qui est inspirée du best-seller Le charme discret de l'intestin de Julia et Jill Enders, qui a été paru en France en 2015, qui a été vendu à 1 200 000 exemplaires, qui a été traduit en plus de 40 langues. Et donc, cette exposition raconte l'incroyable vie du microbiote, d'où le nom de cette exposition Microbiote, connu aussi sous le nom de flore intestinale. C'est donc un univers microscopique aussi complexe que méconnu qui n'en finit pas de nous étonner et qui va donc être permis de visiter grâce à cette exposition à la Cité des Sciences et de l'Industrie, parce que chacun possède son propre microbiote, je vais y arriver, un véritable marqueur personnel en constante évolution à l'instar des empreintes digitales. Il faut ainsi se faire à l'idée que le corps humain est non seulement constitué de chair, de sang, d'os et de muscles, mais aussi de tout un monde de bactéries, de virus, de champignons qui sont hébergés en quasi-totalité par l'intestin, qui est un véritable donc écosystème à lui tout seul. Ces 10 dernières années, différentes recherches sur le sujet ont imposé l'idée du ventre comme étant le second cerveau. Le système digestif est en effet doté de son propre système nerveux et il interagit avec l'organisme au cours de la digestion. C'est un coach du système immunitaire. Il entretient donc de relations étroites et déterminantes avec le cerveau. Microbiote, c'est donc à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Vous pouvez y aller avec vos enfants, il faut qu'ils soient quand même âgés de 10 ans minimum pour pouvoir comprendre quand même un petit peu mieux cette exposition et qui est donc proposée voilà, jusqu'au mois d'août à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Pour les enfants plus jeunes de 2 à 10 ans, eh bien, vous pouvez aller à la Cité des Enfants, au cœur même de la Cité des Sciences et de l'Industrie, avec notamment une petite exposition qui s'appelle Cabane, qui prend place donc dans un nouvel espace désormais réservé aux expositions pour les enfants. C'est une exposition assez surprenante parce que les enfants de 12 à 10 ans vont explorer une vingtaine de cabanes originales qui sont créées pour l'occasion par des artistes et des artisans. Une cabane faite de nœuds, une cabane qui bouge, une cabane transparente, une cabane dont on peut révéler l'intérieur, une cabane qui fait un peu peur, une cabane à construire, ainsi de suite. Cabane, c'est pendant toute l'année, ça a démarré fin décembre et c'est jusqu'au 5 janvier 2020 à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et puis il y a une exposition qui a démarré il y a déjà quelques mois, mais qui se poursuit encore, qui concerne corps et science, qui va décrypter le lien entre le sport et le corps dans une large acception physique comme physiologique, le corps, les gestes sportifs, les modifications corporelles et cérébrales qui surviennent lors de la pratique sportive. Bref, cette exposition présente toutes les informations scientifiques pour comprendre ce qui se passe dans son corps comme dans sa tête, que l'on soit athlète de haut niveau ou sportif amateur, et donc à travers différents sports individuel ou collectif, eh bien cette exposition aborde l'activité sportive comme phénomène politique, social, scientifique et médiatique dans ses aspects positifs comme dans ses dérives. Corps et sport, c'est également à la Cité des Sciences et de l'Industrie à partir de 7 ans. Donc vous voyez, vous avez un petit peu tous les niveaux d'âge pour les enfants pour ces expositions à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et il y a deux expositions temporaires également que vous pouvez visiter au Palais de la Découverte, cette fois toujours à Paris. La première expo s'appelle Illusion et elle lève le voile sur le monde étonnant, donc des illusions, des paradoxes, des distorsions des sens, des illusions naturelles ou des illusions fabriquées. Tout cela, ça a toujours fasciné. Et donc cette exposition qui est accessible à partir de 7 ans propose à travers une quarantaine d'expériences ludiques de découvrir ces phénomènes et de décrypter les tours qu'ils jouent à notre cerveau. C'est totalement étonnant, c'est totalement surprenant et c'est au Palais de la Découverte jusqu'au mois d'août, tout comme l'exposition sur les Poison, qui est également conçu à partir de 7 ans pour ceux qui veulent y aller, qui dévoile au public une trentaine d'espèces vivantes, venimeuses ou vénéneuses, des cerfs serpents, des grenouilles, des lézards, des araignées, des arthropodes. Ils sont présentés dans des terrariums fidèles à leur milieu naturel. Et donc, ces espèces sont une porte d'entrée fascinante vers le monde du poison. Et ces substances actives, des poisons qui sont produits par certains animaux ou par certaines plantes, sont d'une composition totalement complexe. Elles sont utilisées dans certaines conditions. Elles s'avèrent être de précieux médicaments. On avait évoqué la semaine dernière ce poison, le venin de guêpe qui pouvait servir notamment comme médicament, comme antibactérien. Et voilà, vous pourrez suivre cela au Palais de la Découverte. Donc voilà. Plusieurs expositions à Paris, bien évidemment au sein même de votre commune, vous avez des centres de culture scientifique et technique, c'est-à-dire des lieux où vous pouvez, avec vos enfants, ou même en famille, il n'y a pas besoin d'être aussi toujours avec des enfants, eh bien voilà, visiter ces espaces, ces musées, ces expositions, participer à des conférences, participer à des expériences également, dans différents ateliers interactifs. Renseignez-vous, ça peut être une sortie vraiment intéressante et instructive, et qui, justement, nous permet de se poser des questions sur différentes thématiques scientifiques et techniques. Donc voilà, quelques expositions que je vous évoque, mais il y en a plein d'autres. Renseignez-vous, il y en a sûrement près de chez vous. Alors, on va démarrer un petit peu cette émission avec différents articles qui ont été publiés ces derniers jours. Alors, je suis en train de regarder par quoi je vais commencer. On va peut-être commencer par un petit peu cette... cette espèce de précepte où on se dit que les camions, c'est plutôt pour les garçons et les poupées, plutôt pour les filles. Eh bien, ces affirmations, elles seraient légèrement sexistes. Elles pourraient tomber à l'eau, au moins pour les premiers mois de la vie des bébés. Hein. C'est une étude menée par Paola Escudero, l'Université occidentale de Sydney, qui a remis en cause ces schémas traditionnels. Est-ce que notre société est vraiment équitable ? A priori, non. Les origines ethniques ou sociales peuvent favoriser ou au contraire désavantager dans certains contextes un genre ou l'autre. Alors, globalement, les schémas familiaux et professionnels restent le plus souvent de l'ordre du traditionnel. Les femmes réalisent toujours l'essentiel des tâches ménagères et n'occupent globalement pas les mêmes fonctions que leurs homologues masculins. La distinction commence même dès le plus jeune âge. Les petites filles reçoivent en cadeau des poupées et des costumes de princesse, alors que les garçons se voient offrir des camions ou des jeux de Lego. Alors, se pose alors aux scientifiques la question de savoir ce qui relève du naturel et ce qui tient du culturel. C'est un vaste problème. Il y a eu des études précédentes qui tendaient à montrer qu'effectivement, dès 6 mois, les garçons préfèrent les jouets à roulettes, alors que les filles demandent davantage à prendre soin d'un petit poupon. Une propension qui... relèverait du moins partiellement de l'inné si on en croit les résultats d'une recherche menée il y a une dizaine d'années chez le macaque. Les mâles testés préféraient intrinsèquement les voitures tandis que les femelles avaient des goûts bien plus variables. Eh bien, dans un article publié en 2013 dans le Journal of Experimental Child Psychology, ça a jeté un peu le trouble parce que cet article sous-entend que ces préférences ne seraient pas forcément observées dès la naissance. Alors, du coup, sur la base de ces différentes études, Paola Escudero et ses collègues ont recruté 24 garçons entre 4 et 5 mois et autant de filles du même âge, et ils ont également fait participer 48 adultes des deux sexes pour cette expérience. Le principe, il est simple et il est fréquemment utilisé dans les recherches menées sur les bébés. On suit leur regard en considérant que ce qui est épié le plus longtemps est préféré par les nouveau-nés. Ainsi, il y a eu des photos de visages d'hommes, de femmes, de jouets, de poupées, de voitures, de fours qui ont été présentées à tous les participants. Et qu'en est-il ressorti ? Eh bien, tous les groupes manifestaient plus d'attention pour les visages réels, surtout pour ceux du sexe opposé, même chez les tout-petits, nous dit-on. Quant aux objets, eh bien, les poupées fascinaient davantage les bébés que les voitures, y compris chez les garçons. Il n'y a pas de différence liée au genre dans la petite enfance, donc apparemment. Restera donc aux chercheurs à déterminer les raisons qui poussent les deux sexes à préférer spontanément un type de jouet plutôt qu'un autre. 3 pistes ont été avancées, un changement physiologique, les différences dans le développement cognitif et la pression sociale. Quoi qu'il en soit, il ne faut en aucun cas faire des généralités. Les garçons aussi ont le droit de vouloir une poupée. Les filles, elles ont aussi le droit d'avoir un camion de pompiers. Cela ne révèle aucun dysfonctionnement particulier, seulement peut-être un désir d'enfant facile à combler. Mais voilà, les petits garçons préfèrent les poupées au camion quand ils sont tout petits. Après, ça change. Et ça, c'est intéressant. C'était pas trop arrêté. Et on va du coup, à partir de là, continuer un petit peu les recherches, essayer de comprendre pourquoi et à quel moment eh bien, ça se différencie un peu et pour quelles raisons. Affaire à suivre donc. Mais vous voyez, on va essayer de suivre tout cela également. Tout dépend ce que vous avez offert pour les petits de votre famille il y a quelques semaines à l'occasion de Noël, bien sûr. On verra bien tout cela. Que dit Inuit de tout ça? Eh bien écoutez, on va écouter Dodo Mafutsi. Oh là là, mais ils ont plus des noms compliqués au niveau des titres. Dodo Mafutsi sur l'antenne de Graphite, et puis on continue à feuilleter l'actualité scientifique dans cette émission. Inuit sur l'antenne de Graphite, vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour voilà, vous tenir informé de l'actualité scientifique. On évoquait juste avant ce titre les petits garçons et les petites filles. On va continuer quand même avec cette étude assez intéressante qui a été menée aux États-Unis dans 21 centres de recherche. Les instituts nationaux américains de la santé ont commencé à examiner les cerveaux de 4500 enfants de 9 et 10 ans. Et à terme, l'étude va porter sur 11 000 enfants qui vont être suivis pendant plusieurs années. Et l'idée de cette étude, c'est de voir si la consommation intense de jeux vidéo et le temps passé sur Internet ont une influence sur leur développement. Les premiers résultats de cette étude menée à l'aide d'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, montrent des tracés différents dans les cerveaux des enfants qui utilisent des smartphones, des tablettes, des jeux vidéo plus de 7 heures par jour. C'est déjà quand même pas mal, 7 heures par jour. Les images montrent un amincissement prématuré du cortex. C'est l'écorce cérébrale qui traite les informations envoyées au cerveau par les 5 sens. L'aménuisement du cortex est considéré comme un processus de vieillissement. C'est ce qu'expliquent les scientifiques qui soulignent qu'il n'est pas certain que ce processus soit néfaste. Nous ne savons pas si c'est causé par le temps passé devant les écrans. Nous ne savons pas encore si c'est une mauvaise chose. Cependant, l'étude montre que les enfants qui passent 2 heures ou plus par jour devant un écran obtiennent de moins bons résultats aux tests de mémoire et de langage. Autre phénomène dénoncé, l'effet addictif que peut engendrer le smartphone. Pour arriver à cette conclusion, l'équipe a scanné le cerveau d'adolescents alors qu'ils regardaient leur fil Instagram. Il s'avère que le temps passé devant un écran stimule le dégagement de dopamine, l'hormone du plaisir, de quoi rendre nos enfants littéralement accro, addict aux écrans. Donc voilà, une étude qui commence à être menée, qui va être menée sur la durée, qui va être menée sur un nombre important d'enfants, pour essayer de comprendre si les écrans modifient le cerveau de nos enfants. Et les premiers résultats montrent que oui. Oui, et c'est pas la première fois qu'on en parle dans cette émission. Il y a déjà eu, je crois que ça va être en novembre, il me semble que c'est en novembre dernier, où on avait déjà évoqué une étude un petit peu similaire qui montrait que l'utilisation intense, hein, on est bien dans le côté d'utilisation intense des tablettes, des smartphones, des jeux vidéo, avait un impact sur l'aspect cognitif, c'est-à-dire que la mémoire était diminuée s'il y avait une utilisation intense. Affaire à suivre, bien sûr, là encore, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre du recul sur ce genre de notions, mais bon, pour l'instant, ça commence à se confirmer. À voir pour la suite. Allez, on va partir cette fois assez loin et on va partir à bord de la Station Spatiale Internationale avec cette expérience, l'expérience CALL, Cold Atom Laboratory, qui est en cours à bord de la Station Spatiale Internationale. C'est un véritable tour de force car d'ordinaire, il faut des instruments qui occupent une pièce entière sur Terre pour produire cette expérience. Or, dans le cas présent, cette expérience, elle a la taille d'un petit réfrigérateur et l'expérience est de surcroît pilotable depuis la Terre. Plusieurs équipes de chercheurs pourront avoir accès à ce dispositif pour conduire différents types de recherches. Cette expérience CALL a déjà produit ses premiers résultats avec des différents atomes qu'on a piégés, qu'on a refroidis avec des faisceaux laser et un champ magnétique. Et on a également travaillé à très basse température. Alors, c'est pas encore le record qu'on peut atteindre dans un laboratoire terrestre, mais en tout cas, c'est de bon augure pour cette expérience qui devrait justement permettre d'atteindre des performances assez importante grâce aux conditions de microgravité à bord de la Station Spatiale Internationale. Non seulement, et pour cette raison, des températures encore plus basses devraient pouvoir être atteintes et ainsi permettre d'investiguer un nouveau territoire de la physique, en l'occurrence la physique quantique. C'est ça qui est intéressant, on est en train de faire des expériences dans des conditions extrêmes en termes de température basse. Le point le plus froid de l'univers serait à bord de la Station Spatiale Internationale. Après quelques mois nécessaires à la prise en main du matériel pour vérifier son comportement dans l'espace, qui est indispensable bien sûr pour interpréter correctement les résultats des expériences à mener, cette expérience CALL a donc débuté depuis peu sa chasse à la nouvelle physique et aux nouvelles technologies. Et donc ça pourrait en découler différentes découvertes vraiment intéressantes concernant la gravitation ou la manière de s'y prendre pour faire des ordinateurs quantiques. Parmi les équipes de recherche à pied d'œuvre, il y a deux groupes menés par les premiers physiciens à avoir obtenu différentes prix Nobel, notamment les prix Nobel de physique, Eric Cornell et Wolfgang Kettler, hein, prix Nobel de physique en 2001. Et donc, ils vont pouvoir travailler justement grâce à CAL qui était installé à bord de la Station Spatiale Internationale. Ça devrait durer au moins 3 ans, ces expériences, et on pourra utiliser différents atomes, notamment l'atome de ribidium. On en parlera peut-être lors d'une prochaine émission à l'occasion de l'année internationale du tableau périodique des éléments, et plusieurs isotopes du potassium qui seront utilisés. Donc on fait des expériences avec des atomes qui sont refroidis à très très basse température, et ça va donc pouvoir permettre d'ouvrir la porte à des mesures d'une précision inédite qui pourrait donc être la clé d'une nouvelle physique, donc au niveau de la gravitation ou de l'information quantique. Vraiment intéressant, parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe dans la Station Spatiale Internationale. Enfin, on peut savoir ce qui se passe, mais on n'en parle pas nécessairement. On parle un petit peu de cette partie de Cluedo géant qu'on a lancée en septembre pour savoir qui avait percé un trou au niveau du Soyouz de la Station Spatiale Internationale. Mais les expériences qui sont menées, il y a pas mal d'expériences qui sont menées à bord de la Station Spatiale Internationale, et bien là on a mis en place un matériel qui va permettre de faire des expériences même à distance pour obtenir des conditions extrêmes en termes de basse température. C'est assez bluffant et assez intéressant également. Autre chose au niveau de cet article paru dans Science et Vie qui parfois alerte un petit peu sur les fameuses fake news qui sont un petit peu le quotidien, notre quotidien à nous. Et donc là, Science et Vie a voulu s'arrêter sur ce sondage qui expliquait, était publié il y a un an à peu près, que 9% des Français... Selon 9% des Français, les photos de notre planète seraient truquées et, en fait, il n'existerait aucune preuve que la Terre soit ronde. Pour 9% des Français, c'est le cas. En tout cas, l'idée circule beaucoup sur Internet. Et donc, en mai dernier, l'association américaine Flat Earth Society, la Société de la Terre plate, a même financé la construction d'une petite fusée pour prouver que la Terre est plate. Et donc, son pilote, Mike Hughes, a atteint 570 mètres d'altitude sans pouvoir tirer aucune conclusion. Et quelle surprise, nous dit Science et Vie. M'étonne qu'il ne peut pas avoir de conclusion que la Terre est plate, parce que la Terre est bel et bien ronde. Le doute, même infime, n'est pas permis, et l'idée d'un complot est franchement stupide. De fait, le fait que la Terre soit ronde, ça a été démontré par une multitude d'expériences, et depuis des milliers de photos prises depuis l'espace, il y a les éclipses de Lune, lesquelles on voit l'ombre courbe de la Terre, ou encore le fait que le ciel nocturne diffère selon la latitude. Alors, si la Terre était plate, on verrait les mêmes constellations partout. Mais l'expérience la plus concrète est celle quand même de ce savant grec Eratosthène qui avait fait cette expérience en plantant 2 bâtons identiques dans le sol à plusieurs centaines de kilomètres de distance sur la même longitude et de regarder leur ombre. Si la Terre allait plate, eh bien les bâtons feraient un même angle avec le soleil et les ombres seraient identiques. Or, ce n'est pas le cas. En mesurant l'ombre d'un bâton à Alexandrie et à Ouassant, eh bien, Eratosthène a calculé il y a 2200 ans déjà. À l'époque, ils étaient intelligents. Il avait calculé que la Terre est une sphère de plus de 39 000 km de circonférence. Les mesures actuelles donnent autour de 40 000. C'est-à-dire qu'il avait quasiment obtenu le bon résultat il y a 2200 ans, à l'époque où on ne parlait pas quand même de complot. Donc voilà, c'est un article assez intéressant qui permet de revenir sur ces théories du complot de la Terre plate. Mais non, 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 la Terre n'est pas plate. Elle est bel et bien ronde. Il y a un moment, franchement, où il va falloir se résigner à admettre que la Terre est ronde. Nom de Dieu, c'est quand même pas possible. Allez, on va écouter encore un titre. On va écouter dans la radio. Tiens, un titre de circonstance, à mon avis. Ça peut être intéressant. Sur l'antenne de Graphite, et puis on se retrouve juste après pour terminer cette émission où on va parler du processus de vieillissement de la peau. Ce processus a enfin été identifié.
C'est bien la première fois que j'entends ma voix en dehors de moi, dans la radio. Je ne me reconnais pas. Je ne sais pas si j'aime ça, mais Regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio. Avec des gens qui sont intelligents, et moi j'ai pas d'avis parce que je trouve que ça dépend. Je suis passé dans le futur, j'avais trop envie d'y repasser. Je me suis fait plein de contacts, là-bas les gens ont plein de projets, et moi je n'existais plus. C'est pas important. J'ai entendu ta voix dans la radio. Et elle disait: on joue tous la même chanson, mais on la joue pas de la même façon. On écoute tous la même chanson, mais on n'entend pas.
Eh bien, c'était Jacques avec Dans la radio. C'est vrai, tout ce qu'on peut faire dans la radio, il avait tellement raison de nous dire cela. Vous écoutez justement la radio, et grâce à la radio, ça vous permet de vous tenir informé de l'actualité scientifique et notamment au niveau médecine du processus de vieillissement. Parce qu'on le sait, avec l'âge, notre peau vieillit, tu m'étonnes, le processus peut être retardé grâce à une bonne hygiène de vie, d'accord, mais ça demeure inévitable, on le sait. Eh bien, il y a des chercheurs de l'Université de Californie à San Diego aux États-Unis donc, qui nous en apprennent aujourd'hui un peu plus sur le mécanisme cellulaire sous-jacent de cette de ce processus du vieillissement. Et pour comprendre, il faut savoir que certains fibroblastes que l'on trouve dans notre épiderme présentent une capacité à se convertir en cellules adipeuses, donc en cellules de graisse. Ils donnent ainsi à notre peau son apparence charnue et jeune. Et ils produisent en parallèle un peptide qui joue un rôle essentiel dans la lutte contre les infections. Nous avons découvert que la peau perd sa capacité à former de la graisse au cours du vieillissement. C'est ce qu'explique Richard Gallo, professeur de dermatologie donc de cette université de San Diego. Et le coupable désigné, c'est le facteur de croissance transformant bêta. Il s'appelle comme ça, le TGF-bêta. Chez des chauves-souris, les chercheurs ont inhibé d'une façon chimique la production de cette protéine, et les fibroblastes de leur épiderme se sont remis à se transformé en graisse. Génial. On a même fait cette expérience chez des souris, après avoir désactivé de façon génétique, cette fois, la production de ce facteur de croissance. Les chercheurs espèrent que leurs résultats leur permettront d'aider la peau à combattre des infections telles que celles liées au staphylocoque doré. Cette bactérie est la principale cause d'infection de la peau et du cœur, ainsi qu'un facteur aggravant de l'eczéma, par exemple. Et lorsqu'elle devient résistante aux antibiotiques, eh bien cette bactérie est l'une des causes principales de mort par infection, le staphylocoque doré effectivement très dangereux. Et donc, grâce à ce processus du vieillissement qui a été identifié au niveau de la peau, on se dit que ça pourrait être une piste intéressante justement pour pouvoir essayer de combattre certaines infections. Voilà, c'est annoncé récemment. On va suivre un petit peu les aventures de cette équipe de l'Université de Californie pour essayer de voir leurs recherches et en apprendre un petit peu plus sur ce processus du vieillissement de la peau. Alors évidemment, on a un petit peu derrière l'idée que certains laboratoires pharmaceutiques ou de cosmétiques vont prendre cela avec beaucoup d'intérêt. Tu m'étonnes, mais en tout cas pour l'instant, on est aussi dans un domaine assez au niveau de pharmaceutique pour avoir l'idée de pouvoir produire, je vais y arriver, des solutions contre certaines infections et maladies comme l'eczéma. Ok, très bien, on verra cela, bien sûr. Alors, il y a une autre chose qui, au niveau médecine, est assez intéressant, c'est ces recherches qui avaient démontré l'utilité de la force de préhension comme indicateur de l'état de santé pour de nombreuses maladies. C'est-à-dire qu'en mesurant la force de poigne, eh bien, les chercheurs ont ainsi pu vérifier l'efficacité d'un traitement contre la maladie de Parkinson, par exemple, le degré de fonctionnement cognitif chez des patients schizophrènes, mais aussi la santé cardiovasculaire ou encore évaluer la mortalité, toute cause confondue, chez les personnes âgées. Une méthode souvent utilisée, notamment pour suivre l'évolution de la maladie de Parkinson, eh bien, cette méthode est de faire appel à des capteurs qui vont détecter les mouvements, l'état des muscles ou des glandes sudoripares. Malheureusement, avec une population plus âgée, la peau est plus fragile, ces capteurs peuvent poser des problèmes, notamment des problèmes d'infection. Eh bien, en partant de ce constat, IBM a développé un nouveau capteur, notamment pour les patients qui vont souffrir de la maladie de Parkinson, et ce capteur vient se fixer sur l'ongle qui est quand même beaucoup plus solide et qui peut être collé directement, donc ce capteur sur l'ongle, sans avoir à se soucier des désagréments rencontrés lorsque les capteurs sont posés à même la peau. Ce nouveau dispositif est un petit appareil sans fil, composé de jauges de contrainte, d'un accéléromètre, le tout est relié par Bluetooth à basse consommation et relié à une montre connecté qui est porté du même côté que l'ongle pour être à proximité. Et donc les jauges de contrainte mesurent les déformations et les mouvements de l'ongle. Un indicateur de la force de poigne également, ça va permettre d'avoir des informations. Et puis je vous parlais d'un accéléromètre qui va mesurer l'amplitude et la fluidité des mouvements. Les chercheurs indiquent que le prototype est si robuste que le patient peut lancer une balle de baseball sans que le capteur ne bouge de l'ongle. C'est assez formidable et c'est assez américain, bien sûr. La prochaine étape sera de faire évoluer les composants électroniques en passant passant à l'échelle du micromètre. Donc on va pouvoir réduire la consommation électrique et donc on aura quelque chose d'encore plus petit et tout aussi efficace, parce que l'une des fonctions des ongles humains, c'est de renforcer l'extrémité du doigt pour faciliter la manipulation des objets. Le capteur, il est capable de mesurer des déformations de l'ordre de quelques microns. En comparaison, un cheveu mesure entre 50 et 100 microns. Donc c'est déjà un cheveu assez petit. Là, on parle d'un seul micron. Un globule rouge, par exemple, est un peu moins grand que 10 microns. Donc chaque déplacement produit des déformations caractéristiques qui permettent de déduire le type de mouvement, comme tourner une clé, ouvrir un bocal, utiliser un tournevis, découper des légumes et ainsi de suite. Et donc le capteur, il va envoyer des données sur la pression, le mouvement, la qualité de l'appréhension justement à une application. Une intelligence artificielle va ensuite analyser les données pour établir une base de référence et il sera ainsi possible de détecter une baisse de la force ou tout autre symptôme qui va affecter le contrôle moteur. Et grâce à des modèles d'apprentissage, l'intelligence artificielle va évaluer le ralentissement des mouvements, les tremblements, tous ces symptômes qui sont liés à la maladie de Parkinson. Il y a une autre application également envisagée qui permettra de détecter les mouvements susceptibles de causer des blessures et d'en prévenir le porteur. Mais voilà, un ongle connecté pour surveiller votre santé, c'est IBM qui a donc reçu ce mini capteur qui va se coller sur l'ongle et qui va communiquer sans fil avec un smartphone ou une montre connectée pour voilà, avoir des informations concrètes et comprendre un petit peu mieux ce qui se passe chez ces patients. Ça a été annoncé voilà, il y a quelques semaines, c'était fin 2018, en décembre 2018 apparemment. Voilà, on va écouter un dernier titre avant de nous quitter et on terminera avec cette annonce, le fait que le réchauffement climatique rend les requins droitiers. Alors là, mon Dieu, quand on a vu ça, on se dit que ça devient assez problématique. En début d'année, on avait parlé lors de la première émission de Biotine du fait que les Chinois avaient atterri sur la face cachée de la Lune. Eh bien, on va écouter Ask the Moon de Kodama sur l'antenne de Graphite, toujours pour rester un petit peu dans la même thématique. Ask the Moon, c'était Kodama sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Biotine, l'émission de science et de technologie sur graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet ou 94.9 sur la bande FM pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme. Je vous salue, je vous souhaite un bon appétit si vous êtes à table, comme il est bientôt 13h et que c'est bientôt la fin de cette émission. Et vous avez également la possibilité de pouvoir écouter Biotine en téléchargeant les podcasts sur le site internet de Graphite, graphite.net, et nous écouter également, parce qu'il est peut-être mardi matin, 10h50 à peu près, également pour ceux qui nous écoutent lors de la rediffusion du mardi matin. Pour cette dernier article de cette émission, on va parler de ce qu'on appelle le cerveau latéralisé. C'est en fait chez la plupart des espèces animales, dont l'homme notamment, le cerveau est latéralisé. Ça signifie qu'il y a un hémisphère droit qui est particulièrement dédié à certaines fonctions, et puis il y a un hémisphère gauche qui en commande d'autres. Et donc cette latéralisation permet au cerveau de libérer un peu d'espace en automatisant une partie des tâches. Et selon une étude du CNRS et du CEA de Bordeaux, cette asymétrie hémisphérique semble ainsi conférer un léger avantage cognitif. Ce même phénomène est observé également chez des poissons, et notamment chez des requins, qui est l'un des plus gros représentants. Et il y a eu des chercheurs de l'université Macquarie de Sydney en Australie qui ont cherché à étudier l'impact du réchauffement climatique sur le cerveau du requin, spécifiquement le requin qui vit dans la baie de Port Jackson, c'est à l'est de Sydney. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont plongé des œufs de requin dans l'eau de mer à 23,6 degrés, c'est une température 3 degrés supérieure à celle de leur habitat naturel, et cette hausse correspond à celle qui est attendue à la fin du siècle si les émissions de gaz à effet de serre continuent sur le même rythme. Et première constatation, seuls 60% des embryons ont survécu, ce qui signifie donc que l'eau est trop chaude, l'eau trop chaude est néfaste à leur survie, et les poissons restants ont ensuite été placés dans un aquarium qui était en forme de Y pour examiner leur latéralisation. Et lorsque les requins sont nés dans une eau à température normale, bon, ils ne montrent aucune préférence. Par contre, ceux qui sont nés dans de l'eau chaude, ils ont pour la plupart opté pour la branche du Y à droite, ce qui est signe d'une asymétrie cérébrale plus prononcée. L'eau chaude accélère le métabolisme des embryons, ce qui épuise plus rapidement leurs réserves d'énergie. C'est ce qu'explique Katharina Villapucha, qui est spécialiste du comportement animal, donc à l'université de Sydney. Le cerveau consommant beaucoup d'énergie, c'est l'organe qui va être touché en priorité. Afin d'économiser de la ressource cognitive, le requin a, semble-t-il, tendance à automatiser plus de tâches en les répartissant dans chaque hémisphère. Et loin de le desservir, cette automatisation aboutirait en fait à une meilleure efficacité, c'est ce qu'avancent les chercheurs. Une latéralisation plus poussée du cerveau lui permet de mieux cerner son environnement et ses proies, donc d'améliorer sa technique de chasse. Bonne nouvelle pour le requin, mais moins pour ses malheureuses proies, bien sûr. Des requins meilleurs chasseurs vont faire peser une pression encore plus forte sur les petits poissons, eux-mêmes déjà menacés par le changement climatique. C'est ce que raconte Katharina Villapucha. Pour autant, il n'est pas encore certain que le changement comportemental des requins va au final lui être bénéfique. Cela peut être une réponse adaptative positive au changement climatique, mais simplement aussi un dommage cérébral. C'est ce que relativise Léon Eklin, qui est écologue à l'université de Suède et qui apporte peut-être une contradiction par rapport à cette étude qui nous vient de Sydney. Mais voilà, le réchauffement climatique rend les requins droitiers. Quel est l'intérêt de tout ça? On n'en sait rien, mais on voit très bien que cela peut avoir un impact. Donc on a un petit peu accéléré, certes, le mouvement, bien sûr, mais voilà, ça peut apporter des modifications également au niveau cérébral. Voilà, c'était la fin de cette émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. Je vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission. On continuera à feuilleter l'actualité scientifique. Où que vous soyez, vous pouvez nous écouter sur le 94.9 sur la bande FM et graphite.net sur Internet. D'ici samedi prochain, 12h, vous restez à l'écoute des différentes émissions de Graphite. Bien évidemment, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous retrouve samedi prochain à midi. Bonne journée à tous. Au revoir.